BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité du jour et les États-Unis et l'Iran qui vont suspendre leurs récentes attaques mutuelles, annonce d'un responsable américain après une reprise des hostilités ces derniers jours. Malgré la signature du protocole d'accord entre les deux pays, les discussions techniques continuent, assure également ce responsable, précisant que les navires peuvent circuler librement dans le détroit d'Ormuz. À ce sujet, l'Iran dit avoir tenu une première réunion avec Oman pour parler de la gestion future du détroit. Les deux pays s'en disputent la souveraineté, des déclarations qui alimentent l'accalmie sur les prix du pétrole, le Brent aussi ce midi autour des 72 dollars. Et puis en France, un programme législatif chargé aujourd'hui, les sénateurs vont examiner le projet de loi d'urgence agricole, déjà adopté à l'Assemblée nationale, soutenu par le centre, la droite et l'extrême droite. Le texte était né de la forte mobilisation des agriculteurs en janvier dernier. Par ailleurs, le Parlement doit adopter définitivement aujourd'hui la proposition de loi visant à enrayer l'essor de l'ultra-fast fashion, pénalité financière, interdiction de publicité. Le texte s'attaque exclusivement aux grandes plateformes asiatiques Temu, Chine et AliExpress. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner, une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier. Le pro de l'IMO, ce sont des témoignages terrain de vos métiers, des conseils qui nous intéressent tout particulièrement en cette période de canicule. Tiens, vous avez une piscine, méfiance sur la fiscalité. Heureusement, il y a des boîtes qui vous aident à contester quand il y a sujet à contester. On verra, il y a souvent sujet à contester le fisc. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Et aujourd'hui, on va acheter notre résidence principale. Oui, on va l'acheter, mais autrement. Et vous allez voir, il y a plein de solutions pour acheter plus facilement sa résidence principale. Mais d'abord, donc, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Manon Belin, avocate fiscaliste chez Neora Avocat et cofondatrice d'Orca.tax. Bonjour Manon.
Bonjour.
Je le disais, allez, si on appelait l'administration fiscale et qu'on lui disait « mais non, 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 c'est pas une piscine » ou en tout cas, c'est pas celle que vous croyez. C'est à peu près l'alerte que vous lancez en pleine canicule, ça vaut le coup de le rappeler, non?
Tout à fait.
Bon, alors il y a vraiment une administration fiscale qui vient nous pénaliser alors qu'on n'a pas vraiment de piscine qui devrait être taxée?
Bien sûr, parce que la piscine n'est pas taxée parce qu'elle est piscine, mais parce qu'elle est bâtie. Et nombre d'entre vous ont des piscines qui sont plutôt des bassins démontables qu'on pose à l'occasion d'une canicule, par exemple. Donc, les critères, c'est une piscine fixée à perpétuelle demeure. Ça veut dire que la piscine doit être soit fixée au sol, donc complètement enterrée ou semi-enterrée, ou alors être raccordée de manière durable à un réseau d'eau, par exemple, ou encore être entouré d'une terrasse ou sur une structure maçonnée, en fait, qui va donner comme indice à l'administration fiscale que vous avez, elle a vocation à rester là où elle est.
Attendez Manon, question quand même importante. C'est-à-dire que si c'est une piscine qu'on peut démonter hyper facilement, mais que j'ai mis toute l'installation autour, c'est taxable? C'est
oui,
ça que vous dites?
Tout à fait. C'est même... l'idée de quitter dans le temps.
D'accord, ok.
Donc on va pas faire un dallage pour poser une piscine 15 jours. Voilà, donc c'est le critère. Sauf que comme vous le disiez, l'administration fiscale peut se tromper et se trompe souvent, puisque c'est un syndicat de la DGFiP qui l'a révélé. L'administration fiscale a sorti le dispositif foncier innovant. Donc c'est un outil grâce aux images satellites et grâce à l'intelligence artificielle qui permet de détecter les bassins qui n'auraient pas été déclarés. Sauf que vu du ciel, la réalité est parfois bien différente, parce qu'on se demande bien comment, vu du ciel, l'administration fiscale peut avoir la vision du niveau auquel la piscine est enterrée. Et il y a de nombreuses confusions. J'ai déjà vu des confusions avec des bâches agricoles ou des surfaces de stationnement.
Et juste une question, je me souviens de ce sujet-là qu'on avait traité déjà il y a quelques temps, parce qu'effectivement, donc on pouvait confondre, et certains disaient qu'il faut peut-être parfois aussi se mettre à l'abri de l'arbre pour échapper au contrôle aérien, parce que du coup, ils ne voient pas. C'est ça aussi, ça existe, ça?
Ça peut aider. Ce n'est pas un conseil que je donne forcément, mais ça peut aider.
Mais du coup, ma question, Manon, ça coûte combien concrètement? C'est ça ma question. C'est qu'en gros, quelle est la fiscalité aujourd'hui sur les piscines, a priori, qui devraient être fiscalisées, hein, combien ça représente? Et de fait, comment je peux contester si j'ai payé pour rien? Enfin, est-ce que vraiment ça vaut le coup de contester? C'est aussi ça le sujet, quoi.
Alors, bon, ça vaut le coup de contester, évidemment. Je m'étalerai un peu plus après. Donner un montant est extrêmement compliqué parce que déjà, ça va dépendre de la surface taxable. Donc là aussi, on peut se dire que vu du ciel, les surfaces qui doivent être taxées, ça peut être un petit peu approximatif. Et les taux varient énormément d'une commune à l'autre. Donc, ça peut être du simple au double. Mais ça peut représenter des sommes, plusieurs dizaines, voire centaines d'euros, surtout centaines d'euros. Donc, c'est effectivement important et effectivement aussi, les contribuables ne s'en rendent pas forcément compte parce que avec la taxe foncière qui augmente chaque année du fait de l'inflation, la taxe foncière qui augmente chaque année du fait de l'augmentation des taux, le fait qu'une piscine ait été ajoutée peut passer inaperçu pour le contribuable qui reçoit son avis en fin d'été. Et évidemment qu'on peut contester. Donc pour ça, il ne faut surtout pas hésiter parce que c'est votre droit d'aller demander ce qu'on appelle la fiche d'évaluation de votre bien auprès de l'administration fiscale. Vous pouvez le faire via votre messagerie sécurisée et vous allez recevoir en fait tous les éléments qui composent votre propriété et voir si ça correspond à la réalité. Et la réalité terrain, c'est que il y a énormément d'erreurs puisque les bases ne sont quasiment jamais à jour puisque les données qui servent à l'administration sont celles qui datent de la construction du bien. Donc, il y a quand même beaucoup d'évolutions. Alors, évidemment, il y a les petites mises à jour qui sont faites par l'administration fiscale seule. Ou alors, vous pouvez passer par Orca Contact puisque c'est ce qu'on...
Par vous, Manon, ouais. Mais du coup, ça me coûte combien de passer par vous, Manon? Parce que c'est aussi ça le sujet. En gros, si par exemple... Parce que c'est quoi? C'est chaque année peut-être... Alors, vous disiez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Si par exemple, ça me coûte 200-300 euros par an de fiscalité locale, moi, je vais vous payer combien pour quel gain, en fait?
Orca Contact coûte 78 euros par bien. Donc, en fait, on a automatisé tout le travail qu'on faisait, nous, en tant qu'avocats, puisqu'on avait envie que tous les contribuables aient accès à leurs droits, en fait, parce que la fiscalité française est très, très compliquée à comprendre.
Sans rire.
Donc, c'est dans cette volonté qu'on a voulu industrialiser ce service et rendre service au plus grand nombre. Par an, on a des clients... ça va être quelques dizaines d'euros, mais bon, le service est vite rentabilisé, voire quelques centaines, voire plus de 1000 euros, ça dépend. Et donc, c'est mis à jour pour l'avenir et vous avez à minima 2 ans de remboursement, donc l'année en cours et l'année qui précède. Donc, c'est quand même intéressant d'au moins s'y pencher. Et on a un simulateur gratuit qui vous permet de regarder si vous payez au moins le juste montant avant de vous lancer dans une démarche payante, bien que peu coûteuse.
Et juste d'un dernier mot sur vos statistiques sur la plateforme, dans combien de cas quelle est la part des cas où effectivement il y a un remboursement total ou partiel de l'administration fiscale?
Alors, nous, on fournit tous les arguments juridiques, toute l'analyse. Les justifications sont apportées par le contribuable. Donc, la réponse de l'administration fiscale va dépendre surtout de la qualité des justificatifs qui sont donnés. Mais si c'est bien justifié, tout est accepté par l'administration fiscale.
Bon,
Puisque c'est la loi, en fait.
Non,
c'est une mise à jour des données.
Ouais, bien sûr. Bon, après, on rappelle aussi qu'aux propriétaires de piscine, quand ils doivent le faire et qu'elle est taxable, il faut la déclarer aussi. Hein. Je crois qu'on a combien? Un mois, deux mois, trois mois pour la déclarer?
Bien sûr, il faut la déclarer, oui, dans les 3 mois.
Bon, voilà, c'est fait, le message est passé. Merci Manon à tous les propriétaires de piscine ou ceux qui n'en ont pas et qui bizarrement en ont une, visiblement selon le fisc. N'hésitez pas à appeler Manon Belin, avocate fiscaliste chez Neora Avocat et cofondatrice d'Orca.tax. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Vous avez une piscine, vous? Non, ce n'était pas du tout le sujet du jour. Sylvain Châtelier, président de Logikiz, est avec nous. Bonjour Sylvain.
Bonjour Marie.
Et également à nos côtés, Norbert Fanchon, le patron du groupe Gambetta. Bonjour Norbert.
Bonjour Marie.
Alors je le disais, avant de faire construire notre piscine et de la déclarer au fisc, on va déjà essayer de devenir propriétaire de notre résidence principale et ce n'est pas une mince affaire. Alors, justement, on s'était dit qu'aujourd'hui, on allait prendre un petit peu de temps pour essayer de parler des dispositifs qui peuvent nous aider aujourd'hui à devenir propriétaire de cette résidence principale en passant par un circuit un peu alternatif. C'est un vrai sujet pour vous aujourd'hui? Vous sentez que justement, le circuit classique, ça bloque un peu là aujourd'hui?
La semaine dernière, on a fait le point sur le premier semestre 2026 sur la promotion neuve. On s'est dit qu'il était pas bon, hein, moins 20% sur un an, moins 40% au mois de mai. Et le segment qui résiste, c'est l'accession à la propriété. Et c'est ce qui permet aux gens, encore de pouvoir devenir propriétaires. Et on s'est quitté aussi en disant l'immobilier neuf est trop cher aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire baisser
les prix, parce que c'est ça qui coince.
Et on a évoqué des sujets sur la construction, sur la réglementation, sur l'évolution des normes. Ça va être très long. Dans l'instabilité politique que l'on a, ça va être compliqué. On a une loi logement qui arrive, mais c'est pas ça qui va faire baisser le prix de revient. Donc si on n'arrive pas à faire baisser le prix de revient, il faut aller chercher le prix de vente. Et pour aller chercher le prix de vente, assez simplement, si on arrive à faire baisser la TVA, si on la fait passer de 20 à 5,5%, on a gagné 15 points. Et donc, c'est un vrai avantage pour les Français, pour devenir propriétaire, d'avoir cet avantage fiscal.
Bon, et alors du coup, il y en a qui s'en font une spécialité. Je sais que chez Logikis, vous êtes très attaché à ça.
On est très attaché à ça, effectivement. Ouais.
Donc vous, c'est quoi que vous allez mettre en place et que vous allez me proposer pour me permettre justement d'abaisser ce coût-là, ou en tout cas, enfin, ce coût pour moi?
Clairement, comme disait Norbert, aujourd'hui, il y a des solutions abordables qui sont pérennes, en plus pour tous. Faut quand même se dire une chose, c'est que l'accession abordable est ouverte à 80% de la population active. Donc 80% de la population active, on est quand même sur le gros des acquéreurs aujourd'hui. Donc il faut se pencher sur ce sujet. Et effectivement, c'est des personnes qui vont pouvoir acheter jusqu'à 40% moins cher leur logement.
Bon, alors il faut nous dire, rentrer dedans. Comment je fais pour acheter 40% moins cher mon logement, à part taper sur le promoteur?
Eh bien, on appelle
la tête de Norbert.
Moins 40%, ça fait beaucoup. On peut faire les frais de notaire.
En ce moment... Ils sont sympas, les promoteurs, sur les frais de notaire.
Comment on fait? On se renseigne déjà, on appelle des professionnels pour savoir effectivement où est-ce qu'on peut en trouver. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est la communication de ces produits qui reste malgré tout.
Mais là, vous nous parlez très concrètement, on parle de quoi là? Le bail réel solidaire?
On parle de trois dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place pour tous. On a effectivement le bail réel solidaire, le fameux bail réel solidaire qui va permettre d'acheter simplement ce qu'on utilise, donc son logement. On n'achète pas le terrain. L'avantage, c'est qu'on a une décote qui va aller jusqu'à 40%. Donc 40% de la valeur du bien, c'est quand même important.
Ouais.
Ça veut dire que derrière, on va avoir une mensualité moins réduite, exactement. En plus de ça, on va bénéficier de tous les avantages financiers, donc le prêt à taux zéro, le prêt à 1% logement, etc. Donc tous ces avantages font quand même que pour l'acquéreur, il va pouvoir protéger son pouvoir d'achat. Et quand une personne protège son pouvoir d'achat, le gros avantage, c'est qu'il va pouvoir épargner et protéger sa famille.
Bien sûr, oui. Voilà.
Donc c'est ça l'intérêt d'acheter sur ces produits-là.
Alors d'abord, focus sur le bail réel solidaire. Je me retourne vers Norbert. Vous en avez beaucoup là du BRS?
On est tous les deux, on aime l'accession à la propriété. Nous, au groupe Gambetta, c'est notre ADN coopératif. Donc on est là pour servir les gens et pour leur permettre de devenir propriétaire de leur résidence principale. Et aujourd'hui, BRS et PSLA. J'ai bien compris que la question c'était d'abord sur la dissociation du foncier et du bâti, et on laisse l'accession, la location accession après.
On va en parler.
On est aujourd'hui à un tiers de notre production sur les logements.
En bail réel solidaire?
En bail réel solidaire pour les logements vendus aux personnes physiques. Aujourd'hui, c'est à peu près 50 à 60% du marché. Parce que, alors, oui, 80% des personnes sont éligibles. Donc, il y a encore 20% qui ne le sont pas. Il y a des problèmes de plafond de ressources. Il faut aussi en faire sa résidence principale. C'est pas fait pour louer. C'est pas fait pour investir et défiscaliser.
Oui, on a bien dit là que c'était l'accession. Oui. C'est l'accession à la propriété pour soi, hein.
Oui, mais je dis ça parce que quand on fait de la communication et qu'on annonce des prix, alors nous, on est plutôt 30% en dessous du prix du marché parce que vous arrivez à 40 ou à 50%. Si vous êtes subventionné par les collectivités, donc ce qui n'est pas le cas, nous, on y va par nos propres moyens. Donc en fait, les gens se précipitent en disant c'est super, moi je vais acheter ça et je vais en faire un bien pour louer. Non, c'est pas le cas. Vous devez l'habiter en résidence principale. Et pour repartir un peu, pour dézoomer, en 2019, c'était 200 logements par an. Sur toute la France, tous les promoteurs.
Le bail réel solidaire.
Donc, c'était tout le monde un peu rigolait.
Bah ouais, je me souviens. Moi aussi, je rigolais.
Ouais. Bah, notamment, moi, je suis allé voir le Crédit Agricole pour les nommer et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Parce que le sujet, c'est nous, on est capable de faire du BRS, du bail réel solidaire. Faut le financer derrière. Enfin, faut que nos clients arrivent à se financer.
Bien sûr.
Nous, on le finance avec la Caisse des dépôts, mais comment les clients se font financer leur acquisition. C'est quand même nouveau de dissocier le foncier et le bâti.
Enfin, pas tant que ça, c'est pas nouveau de le dissocier, mais dans l'achat comme ça, oui.
Exactement, ouais. Et en termes de garantie pour les banques, c'est nouveau. Et en fait, ce qu'on a demandé aux banques, enfin ce que le système a demandé, c'est de revoir un logiciel absolument merveilleux qui faisait du crédit immobilier à la chaîne et qui le faisait pas cher et sécurisé. On leur a demandé d'adapter ce magnifique outil pour faire 200 logements par an. Donc ça fonctionnait pas. Aujourd'hui, on est à quoi? On est à 4000 logements. 4000 logements en 2025, 2026. Et le marché aujourd'hui, c'est quoi? C'est tombé à 80 000 unités, ouais. Mais il y a aussi des ventes en bloc. Donc en fait, en vente aux particuliers, on est à 50 000 logements par an. Donc en fait, ce qu'on est en train de se dire, le BRS, c'est 10% du marché aujourd'hui. Et forcément, là, ça intéresse les banques. Et forcément, c'est plus facile aujourd'hui de se financer, parce que c'est aussi un point essentiel. Les clients, ils doivent se financer. Et donc, il y a plus de banques qui le font. Et c'est plus facile aujourd'hui que quand on a commencé en 2019.
Pour boucler la boucle quand même sur le bail réel solidaire, on va quand même expliquer. Donc, on a expliqué qu'il fallait dissocier le foncier du bâti, que donc, du coup, je payais moins cher parce que j'étais pas propriétaire du terrain sur lequel est construit l'immeuble. Mais quand même, je l'occupe, le terrain, donc je dois payer un loyer en plus.
Oui.
Alors, ça, quand même, c'est un point de vigilance à toutes celles et ceux qui pourraient être intéressés, puisque 80% visiblement de nos auditeurs, ils sont illégibles. Il y a quand même un sujet, en fonction de la zone dans laquelle on se trouve, ça peut représenter un petit coût non négligeable, non?
Oui, ça représente un coût non négligeable, mais à partir du moment où on a une réduction importante sur le prix, avec toutes les aides à l'accession, encore une fois, sur le financement, on est de toute façon gagnant sur ce que pourrait nous coûter un bien équivalent sur le marché classique.
Bien sûr, mais quand c'est 3,50 € du mètre carré par mois, ouais, à ajouter aux mensualités de crédit, c'est pas complètement neutre dans les villes très tendues.
C'est pas complètement neutre, mais encore une fois, c'est moins important que un bien classique.
Et vous faites ce calcul là, quand moi je vais vous demander, vous allez faire le calcul. Évidemment. De à quoi équivaudra ma mensualité ajoutée du
Chez nous, en fait, effectivement, nous notre ADN, elle est de définir pour le client quelle sera sa capacité à acheter et du coup quels seront ses gains face à un prix équivalent.
Ouais, c'est ça, vous allez comparer. Donc on intègre,
on compare,
d'achat.
Exactement, pour définir quel pouvoir d'achat il aura tous les mois mettre de l'autre côté. Donc c'est pas neutre, mais c'est mieux que d'acheter sur du classique.
Mais Norbert, du coup, il y a des villes par exemple où vous dites franchement méfiance parce que là pour le coup ça risque de piquer un peu?
Alors, première remarque, c'est que ce dispositif, mais comme les autres, permet d'acheter. C'est-à-dire que on revient sur le crédit immobilier en France, on n'est pas sur le reste à vivre, on est sur les 35% maximum de son endettement par rapport à ses revenus. Si je veux acheter un bien neuf à 250 000 euros, ça veut dire que je dois gagner au minimum 3 000 euros. Quand vous bénéficiez d'une TVA réduite à 5,5%, ben en fait, votre revenu minimum, il passe à 2 300 euros. Donc, ce dispositif-là, c'est vous, d'un coup, vous pouvez devenir acquéreur. Vous devenez éligible à l'accession à la propriété. Donc, il y a un côté.
C'est pas juste une question de pouvoir d'achat, c'est une question
exactement.
Déclencheur.
Exactement. Ouais. Parce qu'on a ce système hyper protecteur du crédit en France, mais mal normé par la Banque de France. On est donc encore sur. On n'est pas sur le reste à vivre. Mais vaste sujet, on ne va pas l'évoquer aujourd'hui.
On va pas.
Et deuxième sujet par rapport au loyer du terrain. Ça dépend quelle est votre décote initiale. Quand vous avez une décote à 30%, effectivement, vous faut rester sur un loyer à 2 euros. Quand votre décote elle est à 40 ou 50%, vous pouvez vous permettre d'avoir un loyer à 3, 3,5. Et puis, en première couronne parisienne, c'est un autre univers. Ouais. Alors, je parle pas de Paris parce que Paris, c'est réservé à l'OFS parisien, à l'organisme foncier solidaire qui porte le terrain de Paris.
Il y a des programmes, je pense, notamment dans le 19e.
C'est subventionné, il y en a pas tant que ça. Mais quand vous êtes en première couronne parisienne, vous pouvez accepter un loyer supérieur. À 2 euros. Partout en France, il faut qu'on soit entre 1 et 2 euros.
Et rapidos, parce que je voudrais qu'on parle du PSLA justement, parce que ça m'intéresse, mais pour boucler la boucle sur le BRS, il y a aussi deux éléments à question. Vu que je ne suis pas propriétaire du foncier, je ne paye pas de taxe foncière, si?
On paye ici une partie de la taxe foncière, quand même.
Ça me paraît très logique.
Il y a une décote liée.
Je vais rappeler nos amis avocats fiscalistes, parce qu'après tout, je suis pas propriétaire du foncier, je le loue.
On a une décote de 30% en moyenne de la taxe
foncière.
D'accord,
donc c'est bon à savoir. Et dernière chose, on est d'accord que c'est aussi un outil anti-spéculatif. Donc, avis à celles et ceux qui seraient intéressés, au moment de la revente, vous pouvez pas faire n'importe quoi, quand bien même on est dans une ville ultra tendue et que les prix, entre le moment de l'achat et de la revente, ils ont progressé de 30% dans le secteur. Vous pourrez peut-être pas augmenter les prix de 30%, c'est ça l'idée aussi.
Alors, effectivement, on peut pas augmenter les prix de 30% si le marché augmente de 30%, mais si on regarde globalement l'augmentation des prix de l'immobilier en France, ça reste quand même l'inflation qui fait que...
C'est ça, ça sera soumis à l'inflation, donc vous pouvez augmenter de l'inflation constatée sur la période.
C'est légiféré, on ne peut pas dépasser l'inflation. Mais quand on regarde le marché global, finalement, ce qui se passe, c'est que l'immobilier est protégé de l'inflation, puisqu'il prend l'inflation.
Oui, enfin, il augmente surtout beaucoup plus que l'inflation. Alors, sur certaines villes et certaines périodes.
Dans certaines périodes, et dans certaines conditions, mais... Quand même, le global, on est quand même... Parce que souvent, les gens nous parlent de la plus-value, le rêve de la plus-value.
Bah ouais.
Eh oui, mais enfin, si tout le monde faisait de la plus-value dans l'immobilier de manière aussi simple...
Oui, mais on peut entendre quand même, c'est quand même quelque chose à dire. Non, mais on est d'accord, mais c'est quand même quelque chose à dire. Et moi, je me souviens, j'étais quand même très frileuse au démarrage du bail réel solidaire, Norbert le sait. Je disais, mais pourquoi moi, je serais sous-propriétaire? Ça veut dire que moi, quand je verrais mes voisins en train de se faire 20, 30, 40% de plus-value, bah moi, si l'inflation, elle a été de 10, bah ça sera 10 et pas plus.
Oui, mais les voisins, ils ont payé 500 euros de crédit.
On est d'accord, mais c'est toujours bon de le rappeler. Mais j'étais convaincue, j'ai fait mon coming out. J'ai fait mon coming out sur le BRS. Bon, il nous reste 6 minutes, messieurs, pour parler du PSL. Alors, la location avec option d'achat, bienvenue dans le leasing immobilier. Et c'est vachement bien.
Oui.
Ah ben non, vous avez l'air un peu...
C'est pas du leasing immobilier, parce que ça va très vite quand même.
C'était plus...
C'était la formule, c'est du leasing immobilier.
Non, mais c'est pas grave. Alors allons-y dans les détails, Norbert, puisque je le dis mal.
Mais puisqu'il nous reste moins de 6 minutes, ce qui me paraît aussi important de rappeler à tous vos auditeurs, c'est la puissance du neuf, ou l'importance... du logement neuf aujourd'hui, et on l'a évoqué la semaine dernière, et du coup j'ai travaillé le sujet, entre les frais de notaire réduits, le prêt à taux zéro d'Action Logement, le prêt à taux zéro, le fait d'avoir un éco-prêt parce qu'on va livrer un logement super performant, avec la canicule qu'on connaît en plus, on se rend compte que la performance énergétique des bâtiments, c'est vrai l'hiver, mais c'est aussi vrai l'été. En fait, on a un taux de crédit dans le neuf largement inférieur à un taux de crédit dans l'ancien.
Mais bien sûr.
Alors, mes amis Charles Marinakis et autres vont pas être contents, mais vraiment le neuf, on arrive à avoir des conditions de financement aujourd'hui.
Mais si, ils sont très contents parce que pour eux, le neuf, c'est l'ancien de demain. Donc
ils sont d'accord avec nous. Et donc, en fait, à mensualité égale, aujourd'hui, vous êtes quand même capable d'acheter du neuf et pas que de l'ancien. Donc, franchement, la puissance du neuf me paraît essentielle à rappeler. Et quand on bénéficie d'une TVA réduite, on est en train de se dire que l'immobilier neuf est moins cher que l'immobilier ancien.
Mais bien sûr.
Et c'est encore plus vrai avec le PSLA, pour revenir à votre question, c'est en fait, le client réserve son logement, ne paye pas de frais intercalaires. On va construire, nous, promoteurs, le logement avec notre financement, tout seul, comme des grands. Et on va lui livrer, il va devenir locataire dans un premier temps, entre 6 mois et 2 ans, le temps de monter son financement. Et puis, il va devenir propriétaire, donc il aura déjà une vie dans le logement. Il va monter son financement, il va devenir propriétaire. Il bénéficie aussi d'une TVA réduite. Il est propriétaire à 100% de son terrain. Il peut avoir une exonération de la TFPB, de la taxe foncière, si la commune en est d'accord. Donc on a le PSLA, c'était avant que le BRS naisse, c'était quand même le dispositif pour l'accédant à la propriété, mais il a tendance un peu à disparaître.
C'est ça. Oui, il disparaît complètement. Enfin, aujourd'hui, il y a même des mairies comme la mairie de Montpellier qui refusent de faire du PSLA.
Pourquoi? Vraiment, je vous pose la question sincèrement, pourquoi?
Probablement pour des effets d'aubaine qui ont été un peu trop utilisés par certains acquéreurs sur l'achat-revente en sortant des conditions pour profiter de cette décote.
Oui, mais c'est quand même vachement bien fichu. C'est quand même cadré le PSLA. Il ne me semble pas qu'on puisse faire tout et n'importe quoi avec.
On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Par contre, il y a des solutions pour pouvoir revendre le bien avant des délais maximales en divorçant, en se dépaxant, en faisant des choses comme ça, par exemple.
Ce qui a été limitant sur le PSLA, c'est le fait que les villes n'est pas la TFPB, n'est pas la taxe foncière.
Ouais.
Et donc, c'est en ça où le BRS.
Bah oui, est plus intéressant pour les villes parce qu'elles vont faire récupérer un peu de taxes.
Ouais. On n'est jamais monté à 4000 PSLA par an. La preuve, c'est qu'il y avait des régions, Montpellier, Toulouse, qui étaient spécialistes du PSLA, mais à Nice, on n'en a fait aucun, où c'était très compliqué dans d'autres métropoles. Et puis, effectivement, le BRS, c'est donc nous, le groupe Gambetta, on est organisme foncier solidaire et on fait du BRS. Donc l'organisme foncier solidaire, c'est celui qui porte le terrain à la place du propriétaire. Ouais. Et moi, en tant qu'organisme foncier solidaire, je dois surveiller à chaque mutation, à chaque revente, que l'acquéreur est bien dans les bons plafonds et que le vendeur vend bien au bon prix. En PSLA, vous n'avez pas ce système de verrouillage.
Donc ça laissait... Ah ouais. Mais donc là, du coup, on dit quoi à nos auditeurs et téléspectateurs? En gros, privilégier le bail réel solidaire. Le PSLA, de toute façon, vous en trouverez pas ou peu?
Pas ou peu, ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment le bail réel solidaire qui prend le pas sur le reste et qui permet, encore une fois, d'acheter dans des conditions qu'on ne pourrait pas autrement. Donc le bail solidaire, c'est le logement abordable qui est en train de prendre le pas sur tout, en fait.
Et c'est ça qui est... Enfin, moi, je trouve ça assez dingue pour le PSLA, parce que je me souviens en avoir parlé il y a quelques temps, et je trouvais que c'était vraiment bien fichu. Et il y avait quand même... la possibilité, par exemple, de ne pas acheter au terme de l'engagement en disant, bah, en fait, finalement, ça ne fit plus avec ma composition familiale, avec mon niveau de ressources, d'être logé dans le parc social derrière. Enfin, il y avait quand même...
Oui, des avantages, oui, bien sûr.
Et c'est pour ça que nous, opérateurs, on préfère aussi faire du BRS que du PSLA. Parce que le PSLA, on crée cette incertitude de la sortie. Il faut être aussi clair. Mais par rapport à ce que vous dites, qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs ? On dit d'acheter du neuf. Non, mais je veux.
C'est pas
vous
faux.
Vous dites la même chose, Sylvain.
Non, mais c'est pas faux. Il a raison.
Les taux, ils vont.
C'est drôle comme discours pour un promoteur immobilier.
On connaît la tendance sur les taux qui vont monter, même si le baril se calme. Mais je pensais que dans vos titres, vous alliez dire que les discussions commençaient pour détendre le détroit d'Ormuz. Mais cette nuit, à nouveau, les choses étaient tendues. Donc on voit bien qu'il y a une incertitude économique et que les taux, ils ont plutôt tendance à monter. Donc profitons. Des éco-prêts, profitons d'Action Logement, profitons des PTZ, ça ne durera pas non plus peut-être très longtemps.
Ouais.
Donc profitons de ces TVA réduites. 80% sont éligibles, c'est totalement vrai. Il peut y avoir des contraintes à la sortie, mais on se le redit, être propriétaire de sa résidence principale, c'est fondamental pour se constituer une épargne, c'est fondamental pour préparer sa retraite. Enfin, il y a un côté patrimonial qui est essentiel. Enfin, c'est ce qu'on vend dans le groupe Gambetta depuis des années avec vous, Marie.
Hein.
Et je crois que c'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est devenir propriétaire de votre résidence principale.
Sylvain, un dernier mot. En gros, l'idée et notre discours, effectivement, c'est presque vraiment... Alors, acheter du neuf, c'est ça qui rend aussi l'accès à la propriété plus simple. On le disait via le bail réel solidaire, mais ce que disait aussi Norbert, c'est via les conditions d'emprunt spécifiques à l'achat de logements neufs, le fait qu'on puisse réussir à faire sauter la taxe foncière. Il y a quand même des sujets et les frais de notaire. Enfin voilà, il y a quand même.
En fait, le ces dispositifs abordables sur le neuf spécifiquement. Je reviens sur le neuf, mais effectivement, les deux cumulés. Il n'y a pas plus puissant, en fait, sur le marché pour devenir propriétaire. Il n'y a pas plus puissant. C'est vraiment la solution pour pouvoir accéder à la propriété pas cher. Voilà.
Ouais, mais c'est des biens de grande qualité. Vous allez gagner en fait.
Mais la prochaine fois, alors Albo, il a fait partir le jingle de l'émission, donc du coup, on va pas pouvoir continuer à discuter. Mais la prochaine fois, je sais que après, on a tellement parlé de la canicule la semaine dernière, je voulais nous accorder un petit peu de fraîcheur. Mais enfin, il y a quand même des sujets aussi là-dessus, puisque j'ai vu que beaucoup de promoteurs s'étaient fait insulter sur les réseaux sociaux en mode j'ai été livré il y a 2 ans et c'est un four chez moi. Donc il sera sujet aussi de discuter de ça. Est-ce que les promoteurs ont véritablement pris en compte dans leur mode de construction l'enjeu des bouilloires thermiques de demain et ils ne sont pas trop focalisés sur la lutte contre les passoires. Je rappelle qu'il y a des qualités d'isolant aussi à choisir. On en reparlera parce que là, sinon Alban, il va m'assassiner. Merci à tous les deux, Sylvain Châtelier, président de Logikeys, d'avoir été avec nous et Norbert Franchon, le patron du groupe Gambetta. Les experts de l'IMO reviennent demain sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.